I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans Le Rendez-vous Jeu, l'émission hebdomadaire qui résume l'actualité du jeu vidéo sur PC, console et mobile. Je ne suis pas Patrick Béja, mais je suis Johan. Comme vous le savez, Patrick est très occupé à accueillir une nouvelle personne dans sa famille. On a donc la lourde mais sympathique tâche de prendre le relais cette semaine. Et je dis « on » parce que je suis formidablement épaulé par Thomas. Bonjour Thomas.
Et bonjour, bonjour à tous.
Par Cassim. Salut Cassim.
Salut.
Et Guillaume.
Salut Johan, salut tout le monde, merci pour l'invitation.
Il n'y a pas de souci. On est très honoré hein, d'avoir eu ce relais pour cette semaine. Au programme, il y a plein de choses intéressantes. Il y a eu les résultats financiers de Sony, de Microsoft. Et voilà, on va pouvoir vous parler de quelques petits jeux auxquels on a joué. Et on va décoller assez rapidement. Je donne la charge à Cassim de nous parler du coup de ces résultats financiers.
On va parler de pognon, du coup.
C'est
l'argent, pognon égale argent. On va commencer du coup par les résultats de Sony. Et pourquoi on commence par les résultats de Sony? Parce que bah, c'est ceux qui donnent le plus d'informations, donc c'est les plus intéressants, je trouve, à discuter, à analyser, quoi. Donc Sony, globalement, ça va pas mal, hein, quand même. De toute façon, en vrai, donc, tout le secteur de la tech et les jeux vidéo, tout ça, ça va très bien depuis... les périodes de confinement, le Covid, etc.
Depuis que le monde va mal, le jeu vidéo se porte bien.
Ben oui, parce que les gens font deux choses globalement chez eux. Ils achètent des PC et ils achètent des jeux vidéo. Donc du coup, Sony, ils sont contents. Et donc la PlayStation 5, elle a quand même fait des beaux records de ventes depuis son lancement. Là, c'était à la fois la fin du trimestre pour eux et la fin de l'année fiscale. Donc c'était un peu le moment de faire plein de bilans pour Sony. Et notamment le bilan du lancement de la PlayStation 5 de novembre dernier. Et donc, ils ont quand même écoulé 7,8 millions de consoles au 31 mars. Et ce qui est assez surprenant dans ce chiffre, quand même, dans ce premier chiffre, c'est le fait que c'est plus que la PlayStation 4 à son époque. Donc, malgré la pénurie, les problèmes de stock, toute la galère qui entoure le fait d'acheter une PlayStation 5 aujourd'hui, bah, en fait, ils ont quand même réussi à en vendre plus que la PlayStation 4 à son époque, quoi.
Et je surenchéris, c'est même plus que n'importe quelle autre console, en fait.
Oui,
de l'histoire,
Nintendo, Microsoft, Sega,
voilà.
Tout ça.
Et c'est intéressant parce qu'effectivement, quand on parle de PlayStation 5, en général, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui n'ont pas encore réussi à avoir la leur. Et systématiquement, sous les news de Sony, on a quelqu'un qui répond « Ouais, bah, c'est bien sympa votre truc, mais moi, je n'ai pas de PS5, etc. » Donc, on a vraiment cette impression globale qu'il n'y a pas assez de consoles. Il n'y en a pas assez, hein, de fait, mais ça donne une impression que Sony n'en a pas produit assez ou a été peut-être gêné par justement le contexte pour produire ses consoles, ce qui est peut-être vrai aussi, mais en tout cas, niveau nombre de machines livrées, c'est du jamais vu.
C'est ça, ouais, ces derniers mois, on s'est habitué à moquer l'offre, et finalement, il faut constater que c'est la demande qui est inattendue, a priori, ou en tout cas exceptionnelle pour cette année, quoi, pour cette PS5.
Et ça laisse rêveur sur le fait, ça laisse imaginatif plutôt sur si Sony avait pu produire autant de PS5 qu'ils voulaient, combien ils auraient réussi à en vendre en si peu de temps, parce que visiblement la demande est encore extrêmement forte par rapport à l'offre, donc c'est assez impressionnant comme résultat. Mais bon, les consoles c'est bien, mais le mieux c'est quand même les jeux vidéo. Et là aussi, ils ont quand même vendu pas mal de jeux. Ils en ont quand même vendu 338,9 millions de jeux en un an là sur leur année fiscale, de jeux PlayStation 4 ou PlayStation 5 ou PC d'ailleurs. Donc ça fait pas mal de titres. Et alors il y a quand même deux stats qui sont super intéressantes là-dedans parce que vraiment ils donnent pas mal d'informations. C'est que deux jeux sur trois sont des jeux des maths, donc ça évidemment le Covid a beaucoup aidé la transition, même si elle était déjà enclenchée depuis plusieurs années, mais voilà, maintenant on a vraiment deux jeux sur trois qui sont vendus en numérique et pas en physique, Et on a un jeu sur cinq qui sont des jeux PlayStation Studio, des jeux first party, directement développés par Sony ou édités par Sony. Mais voilà, un jeu sur cinq, c'est un jeu PlayStation Studio, donc ça donne le...
C'est vraiment énorme, en fait, hein, comme chiffre. C'est le genre de chiffre qu'on peut s'attendre à voir, on va dire, pour du Nintendo. Hein. On sait que les jeux Nintendo se vendent vraiment énormément, plus que les autres jeux sur les consoles de Nintendo. On n'a pas l'habitude d'avoir ce ressenti-là pour Sony, et se rendre compte qu'il y a un jeu sur cinq sur ces consoles-là, c'est du Sony First Party, c'est assez énorme.
Faut rappeler que c'est vraiment, on parle de mars 2020 à mars 2021, donc ça a été une énorme année pour Sony en termes de sortie de jeux. C'est quand même dans cette année-là qu'il y a eu Ghost of Tsushima, il y a eu The Last of Us Part 2, il y a eu Spider-Man Miles Morales, Demon's Souls, donc enfin, ils ont quand même sorti beaucoup de titres sur un an. Ils récoltent un peu tout le travail qu'ils ont accumulé sur les années précédentes pour avoir ces gros titres qui ont... à la fois accompagner la fin de la vie de la PlayStation 4 et en même temps permis de lancer la PlayStation 5, quoi. Donc c'est bien mérité. En même temps, ça illustre bien la stratégie blockbuster de Sony d'avoir ces gros titres qui de plus en plus arrivent à fédérer, comme tu dis, un peu comme Nintendo, un attrait auprès du grand public, quoi. Enfin, pour vendre autant, clairement, y a une vraie image de marque là-dedans.
Ouais, c'est intéressant parce que du côté de PlayStation, il reste finalement assez tradi, donc très ancré dans un système de génération, beaucoup de jeux first party, alors que du côté de la concurrence, ils sont, et on va en parler tout à l'heure, hein, mais ils sont vraiment en train de repenser leur fonctionnement, repenser la façon dont ils font les choses, et on voit que malgré tout ça, Sony reste le patron, quoi.
Et ils sont leaders incontestés quand même du marché, même si on n'a pas encore les résultats de Nintendo qui seront probablement tout aussi excellents. Là, clairement, enfin voilà, Sony en tout cas a signé une année record. D'ailleurs, je parlais des records. Il y a eu deux records de marqués par Sony pour les jeux vidéo. C'est d'abord la vente de jeux. Il n'y a jamais eu autant de jeux vendus avec ces 338 millions avant cette année fiscale 2020, là, toutes consoles confondues, sur un an. Et puis il y a sur l'entièreté de la vie de la PlayStation 4, ils ont en signant cette année, ils auront quand même dépassé le cap des 1,5 milliard cette fois de jeux vendus sur la vie de la PlayStation 4, ce qui bat de peu à quelques millions d'unités près le record précédent de la PlayStation 2. Puis on imagine que là, du jour au lendemain, les ventes de jeux sur PlayStation 4 vont pas s'arrêter non plus, même si la PlayStation 5 a été lancée. Donc ça va continuer doucement sa vie sur les années à venir. Mais voilà, la PlayStation 4, c'est la console avec le plus de jeux vendus de l'histoire des consoles de jeux, quoi.
Pour moi, la stat qui est super intéressante, c'est que quand on regarde le bilan financier des années précédentes, si on prend, on va dire, sur les 2-3 décennies dernières, on peut vite fait, d'un coup d'œil, voir quand est-ce que Sony a lancé des consoles. On est toujours dans des chiffres d'affaires qui sont très négatifs. Des bénéfices, pardon, qui sont des super négatifs. Et pas cette année, en fait. La PS5, elle vient d'arriver et on a l'impression qu'ils sont juste dans une continuité, que ça les a pas impactés du tout, quoi. Malgré tout le marketing, malgré toute la production, malgré la vente à perte qui a été confirmée, la PS5 est vendue à perte. Non, ils font leur meilleure année... jamais.
C'est mieux qu'être positif, c'est qu'ils font leur meilleur. En fait, ils battent leur meilleure année. Là, ils font leur meilleure année fiscale, alors que tu le dis, ils ont une console à lancer. Que les lancements de consoles, historiquement, c'est l'année où tu payes avant de toucher les bénéfices. Tu payes toute ta recherche et développement, tout ton marketing. Tu l'as dit. Mais du coup, ce qui explique cette année record, c'est justement ce décalage vers le numérique où ils gagnent plus d'argent. Sur les jeux vendus, et puis la vente surtout de DLC qui représente une part conséquente maintenant de leurs revenus. Donc tout ce qui est, en plus on a appris, je fais une petite digression, mais on a appris au même moment dans le procès Epic Games Apple que c'était sur PlayStation que les joueurs de Fortnite dépensaient le plus d'argent, largement. Donc tout ça est cohérent. C'est vraiment les DLC, les contenus in-app, les paiements, les microtransactions qui font tout le sel, tout le beurre de leur chiffre d'affaires, enfin de leurs bénéfices là, sur cette année. Donc ils sont Bref, ils vont très bien, quoi. C'est ça la conclusion, c'est qu'ils vont très bien. Et tu le dis, ils ont une année record sur un lancement de console. Donc,
et le résultat permet aussi de comprendre un peu les annonces qui ont été faites très récemment sur la direction stratégique que prend Sony. On voit l'importance du coup des first party dans leur résultat et qui, du coup, on comprend effectivement pourquoi est-ce qu'ils vont... ils ont annoncé qu'ils allaient encore rajouter presque 200 millions de dollars en plus sur le budget de cette année, juste sur l'effort fait pour développer des jeux first party. Et on a aussi des annonces... On comptait en parler dans les news, mais on peut le parler maintenant. Mais ils vont essayer d'agrémenter leur système d'abonnement avec d'autres services pour booster encore, du coup, effectivement, le nombre d'utilisateurs du PlayStation Plus, du PlayStation Now. On sent qu'effectivement, que toutes ces rentrées d'argent qui sont finalement des paiements directs entre le consommateur et Sony, et donc c'est là où ils gagnent en fait le plus d'argent. Et donc, du coup, ça se reflète bien dans ce qu'on a pu lire des résultats. C'est bien en phase avec leur stratégie à venir, quoi.
Et pour revenir rapidement à quelque chose de plus concret, sur les perspectives, puisque tu parlais un peu de l'avenir, ils ont aussi comme perspective pour les investisseurs qu'ils arriveront à vendre plus de jeux first party sur la prochaine année fiscale, là, donc, qui a débuté fin mars et qui s'arrêtera fin mars de 2022. Et on se pose un peu la question de savoir avec quel jeu ils vont réussir à battre ce record. Enfin, là, j'avais dit tout à l'heure, ils ont sorti énormément de jeux. Et à ce qu'on sait, ils ont quelques gros titres qui sont en préparation, hein, genre Horizon Forbidden West. Mais ils n'ont pas. Ça semble cacher une annonce de jeu qui sortirait d'ici mars 2022 qui n'aurait pas encore été officialisée.
Bah après, God of War était initialement annoncé pour fin 2021, donc ça peut potentiellement avoir glissé début 2022. Et ça correspond à l'archétype du très gros jeu, très attendu, très apprécié, qui peut cartonner, quoi.
Tout à fait. Et on rappelle qu'il doit y avoir un State of Play très bientôt, il me semble.
Oui.
Oui. Ce soir.
Voilà. Voilà. Donc peut-être que vous aurez la réponse au moment où vous écouterez l'émission.
Kassim, je te propose maintenant de regarder de l'autre côté de la rue et d'aller voir nos amis, amis à toi, tes amis Microsoft.
Bah, voir si l'herbe est plus verte du côté de Xbox. Tu l'as compris, celle-là?
Bon, bref. si le ciel est bleu chez Sony, est-ce que l'herbe est verte chez Microsoft?
Voilà, titre. Mais alors Microsoft, le souci, c'est qu'ils sont très gentils, c'est très sympathique, mais ils donnent quasiment aucun chiffre, donc ça va être beaucoup plus rapide. On ne sait pas le nombre de jeux qu'ils vendent, on ne sait pas tout ça. On ne connaît surtout pas leurs bénéfices, ce qui serait quand même assez intéressant pour faire des analyses. Mais on sait quand même qu'ils ont déjà un chiffre d'affaires qui est en explosion de 50%. Par rapport au même trimestre l'année dernière. Alors eux, c'est pas du tout leur année fiscale qui est terminée, donc c'est juste sur le trimestre. Là, on va parler.
Ça se finit.
En gros, entre janvier et mars. C'est ça. Eux, ils sont décalés de 3 mois, donc ça se finira fin juin pour eux. Mais du coup, là, sur les 3 mois de janvier à mars, ils ont fait une belle hausse de leur chiffre d'affaires par rapport à janvier à mars 2020. Donc ça, c'est logique aussi parce que janvier à mars 2020, c'était pas encore tout à fait la période Covid. On était qu'au début. Et donc, je pense qu'il y a, cette comparaison qui est un peu favorable à cette année-là, à cette nouvelle année. Mais du coup, au-delà de ce chiffre d'affaires, ils ont dit on va bien, on vend plein de Xbox, mais pareil, ils vendent beaucoup plus de Xbox entre janvier et mars 2021, maintenant qu'ils ont lancé une nouvelle génération, comparé à janvier-mars 2020, où c'était la fin de vie de la Xbox One et où globalement, il n'y a plus beaucoup de monde qui te voit. Oui, c'est ça, qui était beaucoup. Je pense pas qu'il y avait beaucoup de monde qui voulait une Xbox One entre janvier et mars 2020, quoi. Donc c'est un peu difficile de poser plus de choses là-dessus, si ce n'est quand même qu'il faut reconnaître que, contrairement à Sony, ils n'ont pas lancé de gros jeux. Et ils ont l'air de plutôt bien se porter. Ils ont lancé aucune exclusivité quasiment marquante depuis le lancement de la Xbox Series qui viendrait de leur propre studio. Je passe sur The Medium, qui est un petit jeu double A, quoi, qui est pas un gros titre comme peut l'être Demon's Souls ou Spider-Man Miles Morales. Donc du coup, c'est un des éléments qu'il faut retenir, c'est que Guillaume l'indiquait un petit peu tout à l'heure, Bah eux, ils sont en train de faire leur transformation vers du Game Pass et vers des revenus liés à des abonnements ou liés à des microtransactions ou liés à des ventes de jeux en numérique, mais des jeux plutôt tiers. Et du coup, leur transformation, elle, pour l'instant, elle a l'air de, sans même, même si on connaît pas le bénéfice, elle a l'air de plutôt bien se passer. Et ils ont l'air de plutôt signer un bon trimestre qui leur rapporte de l'argent, voilà, même s'ils ne lancent pas forcément de gros titres, notamment portés par la belle progression du Game Pass, dont on n'a toujours pas de nouveaux chiffres officiels, mais a priori, il aurait réussi à passer le cap des 20 millions d'abonnements, d'après plusieurs journalistes, sans qu'on ait de détails. Et un dernier chiffre, voilà, avant déjà de clôturer cette partie Microsoft, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'informations, sur Minecraft, qui a dépassé le cap des 140 millions d'utilisateurs actifs mensuels, et surtout qui a signé les 1 milliard de mods ou de téléchargements dans sa boutique, alors j'ai plus le chiffre sous les yeux, mais qui se traduisait par pas mal de millions de dollars redistribués
aux crois
développeurs.
Que c'était 300 millions, mais je suis pas sûr de moi, mais je crois que c'était 300 millions.
Voilà, donc en tout cas, plusieurs millions de dollars redéversés aux développeurs, puisque c'est
un créateur de contenu, tu veux dire.
Oui, c'est ça. C'est parce que justement, c'est un vrai écosystème sur la boutique où les gens peuvent proposer du contenu. C'est un peu le même système que sur les App Store. Et du coup, t'as une partie qui est reversée aux développeurs. Et donc, plus le jeu est populaire, forcément, plus il y a d'argent reversé aux développeurs. Et il y a surtout plus d'argent dans les poches de Microsoft. Parce qu'ils le présentent tout le temps, enfin, que ce soit Apple ou Microsoft, ils présentent ça toujours sur. Et on a redistribué 30 millions de dollars aux développeurs. Bon, oui, mais ils ont aussi pris 30% sur chaque transaction.
Oui. Quand je vois les chiffres de Minecraft, donc 140 millions d'utilisateurs actifs chaque mois, je me pose toujours la question de savoir, mais combien ont en dessous de 13 ans parmi ces chiffres-là ? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui jouent à Minecraft.
Bah c'est vrai qu'il n'y a pas la répartition d'âge. Après, il y a les joueurs de 13 ans il y a 10 ans, tu vois, je pense qu'ils ont un peu vieilli avec Minecraft aussi.
Oui, bien sûr, ça a de toute façon une valeur.
Mais c'est le genre de jeu qui, comme GTA V, quand je vois qu'ils ont fait 30% d'augmentation là, sur un an de Minecraft, alors que le jeu a déjà je ne sais pas combien d'années, je m'interroge qui n'a pas encore Minecraft en fait et qui sont ces nouveaux joueurs à part oui peut-être les enfants effectivement mais
oui les gens qui n'existaient pas il y a 10 ans
peut-être ok
ils n'ont pas encore mis la version next-gen de Minecraft hein, sur Series
non.
X non du coup ça je non, pense non. Ça pourra aussi attirer pas mal de curiosité ouais, c'est ça. Je pense que ça pourra attirer pas mal de curiosité parce que ça reste un jeu qui est très sympa à découvrir en raytracing parce qu'il y a des jeux voilà, de lumière qui rebondit, etc. Mm-hmm. Donc je suppose que... je suis étonné que ça ne soit pas déjà arrivé déjà, mais je suppose que Microsoft va mettre le paquet là-dessus quand ça sera là.
Ouais, voilà, bon bref, mais du coup, il n'y a pas beaucoup d'autres choses à dire sur Microsoft. Je dirais juste que, a priori, sur la division grand public, c'est la Xbox qui pousse la croissance de leur division grand public. Donc c'est plutôt positif pour le côté. Ils vont pas abandonner la Xbox. Bon sans doute, hein, mais ils vont pas abandonner la Xbox du jour au lendemain, a priori.
Mais donc on ne sait pas, par exemple, laquelle est la plus vendue entre la série S et la série X.
Non, on ne sait pas, et on ne sait surtout pas si le Game Pass est rentable. La fameuse question à 7,5 milliards de dollars.
C'est ça, moi, qui m'embête un peu en fait avec leurs chiffres, c'est que alors vous particulièrement, vous le savez, j'ai des doutes en fait au niveau du Game Pass, mais c'est pas que j'attends une certaine réponse, c'est que j'aimerais justement avoir tous ces chiffres qu'ils veulent pas donner, parce que par exemple tu dis que leur chiffre d'affaires il augmente, mais comme tu l'as répété, on n'a pas le bénéfice. Donc quand on voit les investissements qu'ils font sur le Game Pass, tu dis bon évidemment, enfin heureusement que ça augmente tout ça, ils investissent énormément. Et pour cette année, je crois, il me semble qu'on a toujours pas une roadmap même un peu clair de ce qui arrive en jeu, là où Sony, on a Ratchet & Clank qui arrive dans pas longtemps, on a Horizon qui commence à se profiler et tout ça, donc...
On a Returnal.
Qui arrive demain, on a une vision un peu plus claire, alors que pour l'instant, Microsoft a l'impression que c'est Game Pass, Game Pass, Game Pass, et que qu'ils dépensent vraiment beaucoup, ça a l'air et moi j'aimerais connaître tout ça, j'aimerais savoir. Et bon.
Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser un point important. Tu m'y fais penser. Donc, ils ont fait un trimestre record en termes de chiffre d'affaires, sauf que c'est aussi un trimestre où ils ont commencé à intégrer Bethesda. Alors, faut quand même mettre des petites bémols sur. Donc, forcément, intégrer Bethesda, ça veut dire que tu augmentes mathématiquement, tu augmentes ton chiffre d'affaires puisque tout le chiffre d'affaires de Bethesda est maintenant intégré dans Xbox. Mais faut juste mettre un petit bémol sur le fait que la finalisation de l'acquisition, je crois qu'elle a eu lieu que vers mars, donc plutôt vers la fin du trimestre. Et donc, je pense que c'est que à partir de la fin du trimestre qu'ils doivent compter le chiffre d'affaires. Ça, maintenant, je mets un doute dans mon propre truc. Mais surtout, l'autre bémol, surtout, c'est le fait que Bethesda a lancé aucun jeu important dernièrement, donc ils doivent pas avoir non plus un chiffre d'affaires mirobolant, même si forcément naturellement ça augmente le tout. C'est pas non plus, voilà, c'est pas comme s'ils venaient de lancer Skyrim 2 sur le dernier mois, quoi. Donc
on l'a oublié, mais parce qu'on parlait de la question des exclusivités côté Sony, côté Microsoft, mais on attend toujours Halo Infinite dans quelques mois.
Oui, oui, bah ça, la roadmap, ça, on aura l'occasion. Je pense qu'ils auront l'occasion d'en reparler dans d'autres épisodes, notamment vers l'E3. Je pense que Microsoft précisera sa roadmap à l'E3. Les deux seuls jeux qui sont confirmés pour l'instant pour cette année, effectivement, c'est Halo Infinite et Psychonauts 2, que tout le monde oublie tout le temps, mais qui est là.
Il y a The Gunk.
Oui,
j'oublie The Gunk.
Oui, non, mais qui est un jeu. oui, je pensais au jeu vraiment développé par Microsoft. Mais oui, The Gunk.
Ah oui.
Mais voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur Microsoft. Ciao. Non, oui, non. Du coup, pour les constructeurs, c'est tout, puisque Nintendo a pas encore dévoilé ses chiffres.
La semaine prochaine, ouais. Si je me trompe.
On a eu quand même les résultats de certains éditeurs, notamment oui. CD Projekt et Koei Tecmo. Donc, on peut dire un petit peu rapidement ce qui s'est dit.
C'est des projets, c'est intéressant parce que forcément tout le monde attend les chiffres de vente de Cyberpunk. Du coup, c'est des projets qui vont très bien, même excellemment bien, c'est leur meilleure année ever, comme un peu tout le monde dans l'industrie. Ils ont fait 450 millions d'euros de bénéfices sur 2020, donc c'est vraiment de très 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 loin leur année record. Hein. J'ai plus le graphe de Oscar Le Maire sous le nez, mais c'est vraiment leur plus grosse année de loin. Grâce notamment aux 13,7 millions de Cyberpunk qu'ils ont réussi à vendre, mais aussi surtout aux ventes de The Witcher 3 qui continuent de se vendre. Et c'est vraiment ça, en fait, finalement, le point d'interrogation de ce bilan fiscal qui est très bon, parce que d'ailleurs, on a appris qu'ils avaient remboursé que finalement très peu de jeux sur l'ensemble des jeux vendus.
On ne le sait pas vraiment. On connaît les remboursements qu'ils ont fait eux-mêmes au sein de GOG.
Tout à fait.
Donc, par exemple, il y a moi là-dedans, mais on est très peu nombreux. Mais par contre, on ne connaît pas l'ampleur des remboursements physiques. On ne connaît pas l'ampleur des remboursements sur les stores des consoles, puisqu'ils ont incité publiquement à demander des remboursements
sur
le PSN, sur le Xbox Live. Voilà ce qui leur a valu le fait d'être jetés du PlayStation Store. Ça, on n'a aucune idée. Donc, le fait de dire « Ah, il y a très peu de remboursements », à ce stade, ça me paraît présomptueux.
J'ajouterais deux éléments encore à ça. C'est les conditions de remboursement étaient cadrées. Donc, il y avait une certaine date à respecter pour être remboursé. Cette date tombait avant les fêtes de fin d'année. Donc, si quelqu'un a reçu son cadeau à Noël, c'était déjà trop tard, on va dire, pour se faire rembourser. Et puis surtout, je pense que la grande majorité des gens, même déçus, ne se jettent pas forcément dans des tâches administratives pour se faire rembourser un jeu. Ils sont déçus, mais ils jouent quand même au jeu. Enfin, je pense que le comportement normal, c'est d'être déçu et de quand même finir le jeu et de quand même trouver un plaisir là-dedans. C'est pas, le jeu n'est pas non plus catastrophique d'un point de vue ludique. Donc, il y a eu des...
J'allais en parler justement, petite parenthèse, puisqu'on a un peu de temps. Est-ce que vous l'avez acheté? Est-ce que vous avez continué à y jouer?
Je crois qu'il n'y a que toi qui l'as acheté.
Je l'ai acheté et je me suis fait rembourser.
Et tu as joué quand même? Enfin, tu l'as lancé?
Oui, je me suis pas fait rembourser sur le principe. Hein. C'est vraiment... c'était une mauvaise expérience parce que je partage l'avis d'Exerv là-dessus. C'est que non seulement il était buggé, mais en plus, même sans les bugs, je trouve que c'est un mauvais jeu. Donc,
Alors, je ne l'ai plus sous les yeux, mais on avait la répartition... Si, ça y est, je dis des bêtises, je l'ai sous les yeux. La répartition des ventes, donc on est à 55% sur PC... Et le reste sur Xbox One et PS4. on sait, enfin, sur PC, ça avait l'air quand même moins catastrophique. Après, en fonction, j'imagine, de ta machine.
Ta machine.
Mais ouais. Ça avait l'air quand même moins catastrophique que sur les autres consoles. Et puis, comme disait Johan, on n'a pas tous les chiffres, on ne sait pas exactement, mais on arrive à imaginer que les gens ont pas, soit ont pas pu, soit ont pas le courage, soit ont pas envie tout simplement d'aller l'échanger. Quoi.
Sur Steam, se faire rembourser, ça va très vite. Hein.
Ouais, mais si ça te plaît.
Faut le savoir aussi, il faut y penser.
En fait, c'est ça aussi, c'est que les joueurs PC ont peut-être aussi plus cette habitude de se faire rembourser un jeu. Quoi. C'est une procédure qui est maintenant, on va dire, un peu connue, un peu utilisée, des fois un peu trop utilisée, qui exploitent les jeux trop courts pour les revendre après les avoir finis. Mais c'est quelque chose, on va dire, de plus facile à faire dans le monde PC que dans le monde console. Cette histoire de déception et de remboursement, elle est importante. Je crois que tu avais commencé à le dire, Kassim, c'est que on est sur Witcher 3, c'est un jeu qui se vend toujours et qui joue. Je connais pas par cœur les chiffres, mais je crois qu'il se vend vraiment parfois plus en 2020
etc. Cette année, c'est sa plus grosse année en fait. Année de sortie 2015, qui était d'ailleurs la précédente année record de
la série Netflix a beaucoup
aidé. CD Projekt. Ouais.
Ah oui, j'imagine. Et du coup, là, on est sur un long seller, et donc la question, c'est de savoir si est-ce que Cyberpunk sera un long seller. Et ça, pour moi, ça va être conditionné effectivement sur ce que veut en fait ces projects sur Cyberpunk. Est-ce qu'ils veulent vraiment réparer le jeu, réparer pas que les bugs, mais continuer à l'étendre, à mettre du DLC, du contenu, faire vivre le jeu pour qu'il devienne lui aussi
le faire revenir sur le Play Store déjà peut-être.
Ouais, ça, je pense que ça va finir par arriver. Ou est-ce qu'ils veulent passer à autre chose? Donc ça, je sais pas trop, je connais pas assez bien, je suis pas assez proche du dossier pour savoir ce vers quoi ils vont. Mais effectivement, ça pose la question d'est-ce que Cyberpunk va pouvoir être comme Witcher 3, une source de revenus continue sur les 10 prochaines années pour CD Projekt.
Parce qu'il faut quand même insister sur le fait que c'est le modèle économique de CD Projekt comme Rockstar de sortir un jeu et après de passer sur le développement du jeu suivant en principe. Et d'attendre, enfin, même s'ils continuent de mettre des mises à jour pour The Witcher 3 et tout ça, mais en gros, l'essentiel c'est à chaque fois d'essayer de développer le prochain gros type AAA pour ultra avec un budget extraordinaire pour la prochaine fois qui sera encore mieux et encore plus gros. Et compter sur le fait que ton jeu précédent va continuer à se vendre sur les 6 à 7 années de développement de ton prochain titre.
On peut rappeler qu'il va y avoir je sais pas si c'est un remaster HD ou enfin une grosse mise à jour graphique pour Witcher 3. Qui va rajouter le ray tracing et qui va logiquement arriver sur les consoles next gen.
Ouais. Qui est toujours dont on n'a pas de nouvelles pour l'instant et qui fait partie un peu des choses mystères sur la feuille de route.
Un tout petit mot sur Koei Tecmo, sauf si vous avez des choses à ajouter sur ces projets. Tout va bien pour tout le monde et tout va bien pour Koei Tecmo qui a sorti Hyrule Warriors l'année dernière, du coup, qui bat aussi des records, je crois, pour un jeu de la série Warriors, et qui arrivent aussi à faire une année record de leur côté. J'imagine qu'avec les prochains chiffres qui vont tomber au fil du mois de mai, on va constater que tout va super bien pour tout le monde. C'est ce que j'espère aussi, en tout cas. On peut clore, je pense, le dossier finance, sauf si vous avez un dernier mot là-dessus.
Pour Koei Tecmo, oui, et Hyrule Warriors 2, donc ils en ont vendu 3,7 millions, et c'est leur plus gros hit jamais. Et on n'a pas les chiffres pour Persona 5 Strikers, qui a dû aider aussi, parce que même s'il était déjà sorti au Japon, en Occident, Persona 5, c'est devenu une grosse marque, donc ça a dû les aider aussi. Voilà.
Et donc pour clore le volet finance, avant de poursuivre, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez soutenir cette émission sur patreon.com/rendez-vous-jeu. N'oubliez pas de soutenir les contenus gratuits que vous aimez sur Internet. Ça permet de garantir leur viabilité et leur pérennité. C'est ce qu'on a décidé de faire nous quatre.
Juste rappeler que l'URL, c'est bien patreon.com/rdvjeu. Ouais. Et que si vous vous inscrivez au Patreon, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord, parler avec nous. Et on joue régulièrement aux jeux vidéo le samedi soir. Donc on vous encourage à le faire, rien que pour ça.
On va pouvoir passer maintenant aux impressions jeux et impressions livres. Ça, c'est une nouveauté que j'ai décidé d'introduire dans l'émission. Alors, on va quand même commencer par les jeux.
On fout le bordel.
C'est ça. On rangera avant de partir. Hein. On mettra tout en place. Parce qu'il y a l'état des lieux en sortant. Hein. Donc, Kassim, tu voulais nous parler de Rain on Your Parade.
Oui, parce que j'ai pas non plus joué à 40 tonnes de jeux, j'avais envie d'en parler parce que c'est un petit jeu indépendant qui est, ma foi, assez mignon et qui était plutôt une bonne surprise. Donc Rain on Your Parade, c'est un petit jeu indé qui me fait beaucoup penser à, j'ai oublié son nom, à Donut County, qui est en fait voilà, un petit jeu de puzzle où vous allez avoir quelques tâches à effectuer et en fait vous allez jouer, d'où le nom, un nuage qui va devoir pleuvoir sur les gens et plutôt leur pourrir un peu la journée. Donc tantôt un mariage, tantôt je sais pas une fête, une kermesse à l'école et vous allez voilà pleuvoir sur les gens et il va y avoir pas mal de petits objectifs. Il va y avoir des types de liquide aussi différents. Si votre nuage passe sur un puits de pétrole, vous allez vous charger en pétrole et pouvoir potentiellement incendier des éléments. Donc il y a quelques petites voilà subtilités dans le gameplay qui arrivent. C'est un jeu surtout qu'on sent que les développeurs se sont bien amusés à faire, avec beaucoup de références et de blagues pour les joueurs. Dès le début du jeu, quasiment, tu as un petit animal qui vient parler au nuage pour dire que les développeurs seront très contents d'avoir des rapports de bugs si tu en as, mais en fait ils s'en foutent un peu et voilà, ils se barrent et promis je ne reviendrai plus jamais t'embêter, enfin voilà. Et puis il y a chaque niveau et donc il y a un petit puzzle et il y a pas mal de, enfin j'ai l'impression qu'il y a plusieurs niveaux qui sont des références à des jeux vidéo. Moi j'en suis qu'au début, mais je suis déjà tombé sur une map qui ressemblait énormément à DE Dust de Counter-Strike. Qui vous demande de vous infiltrer dans une sorte de base avec beaucoup de neige et d'éviter le champ de vision des soldats qui peuvent vous repérer avec un point d'exclamation sur la tête. Donc des petites références à des grands titres du jeu vidéo. Et donc un petit jeu à découvrir que je vous invite voilà, à vous renseigner, à aller voir si ça peut vous plaire.
C'est dispo sur quelle plateforme ?
C'est dispo sur plein de plateformes, comme c'est un jeu indépendant. Et comme j'ai très bien préparé l'émission, je m'en souviens exactement.
J'ai regardé, c'est dispo sur PC, Mac, Linux, Xbox, Switch, mais pas sur PlayStation, bizarrement.
Ok. Et moi, j'y joue dans le Game Pass. Voilà.
Ah, c'est un jeu Game Pass, faut commencer par là.
C'est gratuit, parfait.
Non, c'est pas gratuit. C'est dans Game Pass.
Oui, non, mais c'est...
Non, on va pas relancer ce débat. Mais voilà, donc je vous conseille en tout cas, si vous êtes un abonné du Game Pass, je vous conseille d'aller voir. Et si vous ne l'avez pas, je vous conseille d'aller voir quand même et d'aller acheter le jeu et de soutenir les développeurs.
Super. Thomas, toi, tu voulais nous parler de Phantasian. Alors là, je suis super curieux parce que j'avais pas du tout entendu parler du jeu avant récemment et ça a l'air super joli. Donc qu'est-ce que c'est que Phantasian ?
Kassim, juste avant, il parlait de référence à des grands jeux. Alors ici, on va parler de grands noms. C'est le Phantasian, c'est un peu le Final Fantasy X dans un univers parallèle. Alors pour remémorer, Final Fantasy IX, c'était le dernier jeu où le créateur Sakaguchi, Hironobu Sakaguchi, travaillait. C'était son dernier vrai Final Fantasy. Pour le reste, il était un peu plus en retrait, surtout les autres. Et du coup, avec son ami Obuo Noematsu, ils se sont remis à travailler ensemble pour ce petit, entre guillemets, jeu qui ressemble en tout point à un Final Fantasy, on va dire, de l'ère PS1. Sauf, bien sûr, dans les graphismes. Voilà, on est quand même en 2021. Mais voilà, on va retrouver un peu toutes ces choses qu'on aimait avant. Donc les musiques d'Uematsu sont toujours très très efficaces. Et donc on revient sur un jeu de rôle avec une personne amnésique, parce qu'on change pas une équipe qui gagne,
formule, ouais.
Qui va essayer un peu de retrouver sa mémoire. Et on retrouve les combats aléatoires qu'on n'aimait pas. Enfin, ou qu'on n'aimait plus en tout cas, avec une petite mécanique nouvelle aujourd'hui dans Phantasian. On peut faire un truc très sympa. Alors j'oublie, ça a un nom, j'ai oublié, mais dans le jeu, c'est quand un combat aléatoire apparaît, En fait, on va le stocker, on va stocker les monstres, les monstres qui auraient dû nous attaquer dans un petit outil, et on va pouvoir choisir de tous les affronter en même temps quand on veut. Dans une limite de 30 monstres, mais quand même. Et donc la mécanique de combat tourne autour de ça, et c'est vraiment chouette en vrai. Parce qu'on...
Ah oui, d'accord, en fait ça te permet de pas être interrompu dans ton trajet, et à la fin de ton trajet tu dis ok, je sors le truc et j'affronte tout le monde.
C'est ça, parce que les sorts et les techniques et tout ça sont aussi faites pour qu'on puisse affronter plein de monstres en même temps. Que par exemple on peut lancer un sort en ligne droite et il va trancher tout ce qu'il voit, et donc tu vas pouvoir taper, si tu vises bien, parce qu'il faut viser soi-même, tu vas pouvoir taper 5 monstres et peut-être les tuer tous en même temps, donc ça fait beaucoup moins peur d'affronter 20 monstres d'un coup quand tu peux encharcler par paquet de 6 ou 7 quoi.
Alors je sais pas si...
J'imagine que c'est aussi...
Non, vas-y,
j'imagine que c'est aussi pensé parce que c'est un jeu mobile, que donc t'es censé pouvoir faire des parties assez courtes. Et donc, éviter d'avoir des combats toutes les
c'est ça, ouais. Alors pour l'instant, je suis pas très très loin dans le jeu, mais on progresse assez vite en plus, et encore plus vite quand on peut justement stocker, parce que ça arrive pas au tout début, hein. Il faut peut-être 1 ou 2 heures de jeu avant d'avoir cet objet. Mais du coup, on avance assez vite dans les donjons, et ce combat aléatoire est beaucoup moins frustrant. Et donc les décors, pareil, moi je les trouve vraiment sublimes. On a beaucoup de dioramas. Donc on a l'impression d'avoir un personnage bien animé, un jeu vidéo quoi, qui se déplace dans un décor qui a une patte très réaliste.
Il me semble que c'est des photos, hein.
Je suis pas sûr
réel.
Il y en a, oui, et parfois moins.
Tu vois. D'accord.
Et donc,
après, je pense qu'ils retravaillent. C'est ça. Quoi qu'il arrive, ils retravaillent.
C'est ça.
Mais ils partent de photos.
C'est ça. Il y a des fois, de toute façon, tu sens qu'ils ont pas non plus le budget d'un Final Fantasy de l'époque non plus. Donc tu vois parfois des trucs pas super beaux, tu vois. Un peu comme FF7 Remake qui nous avait affiché une porte pas chargée là. Et ben parfois t'as des trucs un peu comme ça. Et oui, dernière chose, on retrouve aussi les personnages qui dialoguent entre eux, c'est des trucs un peu longs. Sauf qu'au mieux que ça soit des persos animés comme dans les vieux FF, là ça va être avec une jolie musique de Uematsu. Des textes qui apparaissent à l'écran sur des fonds d'artwork, et en fait ça donne une forme de poésie finalement à toute la narration, et c'est vraiment chouette. Il y a beaucoup de jeux aujourd'hui qui cherchent à retrouver un peu le feeling d'avant. Il y a eu Bravely Default 2 il y a pas longtemps, mais finalement Fantasian, ça a vraiment la patte des vieux Final Fantasy, même au-delà du fait que c'est par leur vieux créateur. Donc non, c'est vraiment un très bon moment. Et donc oui, tu l'as dit, Guico, tu as parlé de mobile, parce que donc c'est sur l'Apple Arcade exclusivement pour l'instant. Moi j'y joue sur iPad, j'ai pas réussi à faire un cross save avec mon iPhone. C'est peut-être possible, franchement j'ai pas percé, j'ai juste essayé rapidement hier. Il y a peut-être quelque chose à faire avant, je sais pas, mais bon, pour l'instant j'ai pas réussi.
J'ai deux questions à te poser, justement, par rapport au fait que ce soit mobile. La première, c'est la question des contrôles. Du coup, comment ça se contrôle ?
Pour les déplacements, tu appuies bêtement sur la carte. Il va se déplacer, tu sais, comme si tu cliquais.
Comme un point and click.
Voilà. Et sinon.
Okay. Pathfinder, quoi.
Ouais. Et pour les combats. Tu appuies sur l'interface, sur les boutons, et après tu peux pour la visée, comme je disais, tu peux jauger comme ça au doigt. Je suis pas extrêmement fan, mais ça se fait, franchement ça se fait. Après j'ai pu connecter ma DualSense de PS5 directement sur l'iPad, et là ça fait un peu feeling à l'ancienne, mais sur un iPad ça passe. J'imagine que sur un iPhone ça serait beaucoup moins cool. J'aimerais quand même essayer sur l'iPhone, voir si c'est agréable de jouer. En tout cas sur l'iPad ça va.
Et l'autre question que j'avais, c'était si tu éteins le jeu, enfin si tu le mets en background pour pour faire autre chose avec ton téléphone. Quand tu reviens, est-ce que tu reviens vraiment pile là où t'en es?
Alors j'ai pas réellement essayé ça. Ouais. J'ai fait plutôt des grosses sessions, mais alors là tu vois je peux essayer littéralement là et ça prend une seconde. Bah voilà, je viens de relancer l'iPad que j'avais éteint genre bien hier matin et je reprends pile où j'en suis. Donc okay, une pause active comme comme sur Switch, bêtement.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Top, merci Thomas. Guillaume, toi tu voulais nous parler d'un jeu dont j'ignore complètement tout.
Tu ignorais l'existence. Ouais. Oui, alors c'est un petit jeu indépendant qui se nomme Hitchhiker, a Mystery Game, qui est dispo, je crois, aussi sur à peu près toutes les plateformes. Je vais vérifier ça tout de suite. Mais donc moi je l'ai chopé sur Steam. Et donc grosso modo, c'est un jeu un petit peu... Graphiquement, ça m'évoque... comment s'appelle encore ce jeu? Zut, aidez-moi. Ce jeu où on empêche des incendies dans un parc national aux États-Unis.
Firewatch.
Firewatch, exactement. Merci. Voilà, donc graphiquement, ça ressemble un peu à ça. C'est ce look Unity, avec des arbres très avec un look très solide, comme ça. Et on incarne une personne qui est donc autostoppeur. Donc qui embarque dans des voitures d'inconnus le long d'une autoroute aux États-Unis et on discute avec ces conducteurs qui ont eu la gentillesse de nous prendre. Et alors je ne vais pas trop en dévoiler. Il y a 5 conducteurs avec lesquels on a un trajet et c'est un jeu dans l'écriture ça évoque un petit peu David Lynch. C'est très étrange, c'est très spécial. On se rend compte que peut-être certains conducteurs, en fait, on les avait déjà croisés avant, dans une ancienne vie. Quand on accepte de prendre un raisin sec offert par un des conducteurs, eh bien, on se rend compte qu'il y avait des choses dans ce raisin sec, que c'était peut-être pas une bonne idée d'accepter de le prendre. Il y a des choses étranges, comme il allume la radio, l'animatrice de la radio lance un jeu radio. Et on se rend compte qu'elle nous entend parler aussi, l'animatrice de la radio. Donc c'est un petit peu cette ambiance David Lynch. J'ai apprécié le premier conducteur. J'ai trouvé que c'était j'ai aimé disons ce feeling très mystérieux, très étrange. Voilà, beaucoup de ce feeling très étrange. Après je trouve que ça s'essouffle assez vite. Dès le deuxième conducteur, on s'en lasse un petit peu, on a un peu fait le tour, je trouve. Donc je ne conseillerais pas au final Hitchhiker, a Mystery Game, mais si vous voulez vous amuser, vous pouvez regarder un let's play sur YouTube, évidemment, ça se consomme bien.
Tu ne l'as pas terminé du coup hein,
Je n'ai pas terminé, non, j'ai arrêté dès le deuxième conducteur.
Du coup, la question que j'avais, c'était
total,
de savoir s'il y avait un fil rouge global ou si c'était vraiment des histoires.
Il y a un fil rouge, un fil rouge, je ne vais pas dévoiler, oui. Mais il s'agit de, grosso modo, retrouver une personne qui a disparu. Et effectivement, il y a un fil rouge global. Je ne suis pas arrivé au bout. D'après ce que j'ai pu lire, ça dure 1h30 en tout et pour tout, avec donc ces 5 conducteurs qui durent à peu près... laissez-moi faire le calcul, à peu près 20 minutes par personne. Voilà, et donc je ne conseillerais pas trop ce jeu, même s'il avait un feeling sympathique a priori.
Donc là, je suis allé voir les images et effectivement, en fait, je me souviens d'avoir vu le trailer, ça me bottait bien. Je pense que je vais aller le voir. Je le vois à 13,49€ sur GOG.
Ouais, il est pas très cher.
Donc, moi, je pense que j'attendrai d'avoir le temps parce qu'en ce moment, c'est pas évident. Mais ouais, je pense que je vais me le mettre quand même sur une liste quelque part pour pas l'oublier. Merci Guillaume. C'est à mon tour de vous parler de quelque chose. Donc moi, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle La fin du game. Point d'interrogation. Les jeux vidéo au quotidien. Donc en fait, c'est un livre qui est sorti au début du mois, qui est en fait une analyse de travaux de recherche universitaire en sociologie.
Ça n'a rien à voir avec le podcast, en fait, du coup.
en sociologie du jeu vidéo, qui découle en fait d'une enquête qui s'est déroulée entre 2011 et 2014, si je dis pas de bêtises. Et en fait, l'idée, c'était d'analyser les pratiques du jeu vidéo au sens très très large en France. Donc, qui partait, les chercheurs partaient d'un constat que bon, il y avait déjà pas mal finalement de sondages sur. Enfin, vous savez, on voit régulièrement le CEL, donc le c'est quoi, c'est syndicat des éditeurs de logiciels ludo. Enfin, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est le syndicat des éditeurs de jeux vidéo, quoi, qui fait souvent des études comme ça et qui permettent de sortir des chiffres. Voilà, il y a 50% de femmes qui jouent aux jeux vidéo. La moyenne d'âge, c'est. C'est 35 ans, enfin, ce genre de chiffres-là, on les voit assez régulièrement. Et en fait, eux, bah, du coup, ils prennent un peu ce contre-pied-là en disant que ces moyennes-là, finalement, ne valent pas rien dire parce que le jeu vidéo, c'est plein de choses très, 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 très différentes. Et en fait, on va se rendre compte dans leurs analyses qu'il y a des différences énormes à la fois en termes de genre sur la pratique du jeu vidéo, mais aussi en termes de classe sociale, de tranche d'âge, et voilà. Et donc ils font un peu l'analyse de ça, c'est du coup l'étude de comment est-ce qu'on joue aux jeux vidéo en France. Donc ils ont eu pas mal d'entretiens avec des gens, donc il y a eu pas mal de sondés, mais il y a aussi des gens qui sont venus jouer, filmer par les enquêteurs sur des sessions de plusieurs heures où ils ont pu analyser du coup les réactions, analyser aussi à quoi ils jouaient, dans quel lieu de jeu ils jouaient, est-ce que c'est dans le salon, est-ce que c'est dans un bureau, enfin voilà, il y a toutes ces pratiques là qui sont un peu passées à la loupe, et ils en tirent une analyse, et il y a vraiment plein de choses intéressantes, notamment sur l'image du joueur. Donc c'est une image qui perdure, hein, c'est cette image du joueur. Quand on dit le joueur, on a un imaginaire qui est relié à ça, donc ça peut être très stéréotypé ou un peu moins stéréotypé, mais le fait est que quasiment tout le monde joue, même des gens qui pensent qu'ils ne sont pas joueurs, quoi. Donc les gens qui jouent au solitaire, le solitaire sur le PC, c'est finalement un jeu vidéo. Donc ils récupèrent un peu tout ça, et ils essayent, voilà, de comprendre un peu comment est-ce qu'on joue au jeu vidéo en France. Donc j'ai pas encore terminé le livre, hein, j'en suis encore j'ai lu un premier tiers, mais ça, c'est super intéressant. Il y a pas mal de choses qu'on pensait un peu acquis qui en fait sont très différentes. Voilà, ça casse un peu certaines idées reçues. Donc voilà, donc c'est une lecture que je recommande si jamais vous vous intéressez à la pratique du jeu vidéo, à l'industrie, on va dire, plutôt au sens large, parce que là vous n'allez pas lire les chiffres de Call of Duty, etc., hein, puisque les jeux les plus joués, c'est Solitaire, c'est Free Cell, etc. Donc c'est assez rigolo de se rendre compte. Ça permet aussi de voir quels sont les jeux. Alors, même si c'est des sondages, en fait... Même si c'est des sondages qui datent du début de la décennie, ce qui est intéressant de voir, c'est que des conclusions qu'ils ont tirées, on peut en déduire en fait des choses. Typiquement, on parlait du boost du nombre de ventes de consoles, là, le jeu vidéo qui va super bien, les consoles qui se vendent à fond. Ça, c'est quelque chose qu'on pouvait prédire avec ces résultats-là, parce qu'ils ont fait le calcul. Donc ils savent que la plupart des gens, je crois que c'est plus de 60% des gens, jouent chez eux, en fait. Et comme on est plus chez nous en temps de pandémie, ça laisse forcément plus de place aux jeux vidéo. Donc voilà, il y a toutes ces analyses-là, et c'est rigolo de mettre en face ces analyses-là, en face de ce qu'on constate en termes d'usage, quoi, du jeu vidéo. Voilà, je ne vais pas forcément en parler beaucoup plus. Si vous voulez les lire, je recommande la lecture, c'est l'édition Presse universitaire François Rabelais, et c'est 23€, vous le trouverez un peu...
Rappelle partout. Le titre.
Le titre, c'est « La fin du game, les jeux vidéo au quotidien ». c'est ça.
Je pensais que c'était le livre officiel, tu vois.
Bah oui, c'est ça. Je pensais vraiment que c'était lié à ce podcast. Ça m'a surpris. Ok.
Du coup, je vous propose maintenant de passer un peu aux news générales du jeu vidéo, hein, revenir un peu au jeu. Et donc, on a eu pas mal en fait de news côté PlayStation. Je sais pas qui c'est qui veut les parcourir.
Moi, bon, je peux m'en occuper. Oui, parce que PlayStation, ils étaient un petit peu silencieux, et il y avait des journalistes qui prenaient la parole pour eux en parlant de de manque d'investissement. Il y a eu le dossier sur Days Gone 2, etc. Enfin bref, ils étaient un peu dans. Il y a eu la fermeture des stores qui a finalement été annulée, etc. Donc ils étaient un peu dans une petite mauvaise passe de communication. Et ils ont complètement retourné ça en quelques jours faisant beaucoup d'annonces plutôt positives et intéressantes, notamment au travers d'une interview de Jim Ryan dans le journal japonais le Nikkei, donc qui est malheureusement une interview qui donc en japonais est derrière un paywall et tout, donc on a malheureusement, enfin nous on a pu que avoir les extraits traduits sur des sites américains, mais on n'a pas vraiment. C'est toujours un peu délicat un peu d'analyser tout ça, parce que du coup, même les citations de Jim Ryan ne sont pas des citations claires de ce qu'il a pu vouloir dire exactement, parce qu'il y a la traduction anglaise-japonaise, japonaise-anglaise. Mais il faut garder on peut garder quand même les grandes lignes de ce qu'il a voulu dire, notamment que la PlayStation 5 sera la génération avec le plus d'exclusivité jamais auparavant. C'est-à-dire vraiment, voilà. Doucher immédiatement toutes les craintes qu'il pouvait y avoir sur peut-être une trop forte concentration sur quelques licences et peut-être moins de jeux, du coup, ce genre de choses. Non, là, voilà, Sony, en tout cas, il réaffirme que des exclusivités sur PlayStation 5, il y en aura plein.
Ouais, mais sur ce sujet, moi, il y a. Pareil, ça laisse un flou. C'est un peu bête. Parce que Easy, il parle du plus grand nombre d'exclusivités, mais finalement, je sais pas. Qu'est-ce qu'il entend par exclusivité ? Parce que par exemple, est-ce que FF16, qui arrive en exclusivité temporaire, est-ce qu'il compte ça comme une exclusivité ?
Oui, je pense. Oui.
Est-ce que le DLC Intermission de FF7 Remake, il le prend comme une.
Alors.
Donc ce genre de choses, ça peut aller très vite. Kena, non, c'était peut-être pas une exclusivité, Kena.
Alors si je. Mais alors moi, mon interprétation, si je dois répondre, c'est qu'il compte là-dedans toutes les exclusivités temporaires ou permanentes que Sony arrive à signer de façon volontaire dans leur ligne éditoriale. C'est-à-dire que si un développeur décide de sortir un jeu que sur PlayStation, parce que lui il a envie de sortir que son jeu sur PlayStation, je pense qu'il le compte pas vraiment là-dedans. Par contre tous les jeux où il signe, voilà, Final Fantasy XVI, tout ça, ils ont activement demandé à Square Enix de faire un exclu.
S'il le comptait, je pense qu'il mentirait, puisque j'imagine qu'il y a énormément de jeux PlayStation 1 qui n'existent que sur PlayStation 1, mais qui sont pas qui n'ont pas été signés comme des exclusivités.
C'est ça. Mais par contre, voilà, tous les jeux comme FF16 et tous les jeux indés et tout ça qui repèrent et dont ils arrivent à signer là, un peu l'exclusivité au moins temporaire, même si le jeu à côté il sort sur PC, par exemple, ça compte pour moi très clairement dans ce chiffre d'exclusivité. C'est pas que les jeux first party.
En gros, c'est les jeux qui seront pas tout de suite sur chez Nintendo et Xbox.
Oui, et donc surtout les jeux qui sont pas tout de suite sur Xbox en vrai. Je pense que c'est ça la vraie.
C'est ça, ouais. C'est ça l'important.
Oui, c'est vrai qu'il. Mais voilà, du coup, mais toujours sur ce sujet des exclusivités et puis de la production interne, il a aussi pas voulu exclure, bon, ça c'était un peu évident, mais il a pas exclu d'autres rachats dans le futur. Il est revenu rapidement sur Insomniac Games qui a été racheté il y a très peu de temps finalement, même s'ils ont historiquement beaucoup travaillé avec PlayStation. Et donc, il est probable que Sony, peut-être à l'avenir, refasse des rachats. Donc à voir quand et à voir quelle envergure. Ce serait pas étonnant que des studios comme Housemarque ou Bluepoint par exemple finissent dans l'escarcelle de PlayStation, quoi. Alors sur des choses un tout petit peu plus concrètes, même si c'est toujours très nébuleux et dans le futur de PlayStation, mais c'est très intéressant pour voir un peu quelle stratégie ils veulent mettre en place. Il y a le sujet du cloud où Microsoft fait beaucoup d'annonces un peu avec Xcloud qui est arrivé la semaine dernière sur PC et sur iOS, donc ils font des annonces autour de ça, et ils ont signé en 2019 un partenariat avec Microsoft justement pour renforcer leur offre cloud. Pour l'instant, le PlayStation Now, ils vivotent, mais c'est clairement pas le cœur de la stratégie de PlayStation. Et donc il a promis qu'ils auraient bientôt des choses à dire, sans donner de date évidemment, mais qu'ils allaient avoir une nouvelle stratégie et que ils auraient une solution de cloud qui sera unique à PlayStation. Alors ça veut pas dire que ce sera disponible que sur PlayStation, ça veut dire que ça portera l'ADN PlayStation, ce sera quelque chose que voilà, on ne retrouvera pas chez la concurrence, Alors, qu'est-ce que ça veut dire là derrière? Parce que je vois pas vraiment. Pour moi, il n'y a pas 6 millions de façons de faire du cloud gaming, donc je vois pas trop ce que PlayStation peut inventer, mais pourquoi pas? Alors...
Bah, leurs IP sans doute.
Oui, je pense qu'en vrai, il veut dire ça. Je pense que ce sera uniquement. Ce sera très marqué PlayStation parce que bah, ça sera les jeux PlayStation, quoi. Mais...
Pour conclure là-dessus sur le cloud, il y avait une petite annonce cette semaine qu'ils voulaient pousser le PS Now en 1080p. Je sais pas où on. Je crois que. Je t'ai déjà vu en parler à propos du X-Cloud. Je ne sais pas où ils en sont au niveau de la qualité, ce qui est fourni.
Alors, moi, je peux dire qu'à chaque fois que j'ai joué au PlayStation Now ces dernières années, notamment pour jouer aux jeux qui ne sont pas dispo sur PC, la qualité était très décevante. C'était effectivement plutôt du 720p. Et à chaque fois que j'arrivais dans une zone sombre, par exemple dans les égouts dans The Last of Us, j'avais un écran rempli de carrés bruns, c'était absolument immonde. Donc s'ils veulent augmenter la qualité, ce sera bienvenu. Je suis la seule personne au monde qui joue à Stadia, et je peux comparer, puisque j'y joue en 4K, où là, c'est très net, c'est très fluide, c'est très réactif. Le PlayStation Now, en comparaison, c'est du pipi de chat.
Oui, non, mais clairement, alors, clairement Stadia est leader en termes de technologie sur le cloud gaming. Derrière... PlayStation Now avec ce passage au 1080p, je pense, va un peu se renforcer et va proposer quelque chose de, en tout cas de meilleure qualité. Et le bon dernier pour moi, pour l'instant, c'est xCloud qui est en qualité 720p, un peu YouTube des années 2000, quoi. Mais eux aussi, normalement, oui, ils devraient upgrader tout ça bientôt.
J'ai quand même l'impression que ce soit pour le PS Now ou le xCloud, ils sont encore vraiment. C'est pas une bêta, mais bon, ils reposent pas tout là-dessus. Ouais. C'est en progression, hein, sans, voilà, petit à petit.
Oui, clairement, c'est les balbutiements.
Voilà, c'est ça, c'est le mot. Bien.
Oui, clairement. Tant qu'on parle de balbutiement, un truc qui va être un peu plus, je pense, un peu plus abouti quand on va le revoir voir revenir, c'est le PSVR. Il a rapidement évoqué que c'était évidemment la réalité virtuelle était une opportunité stratégique pour Sony. Donc le PSVR 2, ils en parlent de plus en plus. Donc c'est tout ça est très logique. Puis surtout, ça a l'air d'être beaucoup plus concret, beaucoup. Enfin, ils ont l'air d'avoir investi beaucoup plus dans le PSVR 2 qu'ils ne l'avaient fait à l'époque du PSVR 1, qui réutilisait les PlayStation Move par exemple ou ce genre de choses. Donc tout ça est assez logique et cohérent, mais ça montre que ils ont l'air d'avoir une stratégie assez claire et plutôt optimiste et positif quoi pour l'avenir de PlayStation.
Et puis ils en ont déjà montré beaucoup. Ils ont déjà annoncé des jeux, ils ont montré les manettes. Ils s'expriment quand même super régulièrement dessus. Je serais vraiment pas étonné que le device soit présenté assez rapidement. Peut-être pas, probablement pas pour cette année, mais en tout cas, je l'imagine bien être présenté là à l'E3. Ou autre pour une sortie en début de l'année prochaine. J'ai l'impression que c'est vrai, que ça a l'air vrai quoi. Enfin, je veux dire à chaque fois. J'étais très étonné de voir autant de d'images et d'infos sur le PSVR 2. Donc tant mieux. Moi, je suis client donc tant mieux.
Ouais, pareil. J'étais content de voir qu'ils avaient déjà commencé la communication autour de ce PSVR 2. J'avais peur que ça soit quelque chose de mid-gen tout ça, mais commencer maintenant, donc c'est garder l'intérêt, histoire que de garder la flamme un petit peu de tout ça, et ouais, j'attends beaucoup.
Et surtout qu'ils ont donné plein de jeux là récemment avec le, je sais plus comment ça s'appelle, c'est Play at Home.
Et
ils ont donné pas mal de jeux VR, donc moi j'ai tout pris. Alors j'ai le PSVR 1 chez moi, mais là maintenant j'en suis à en fait attendre le PSVR 2 pour jouer à ces jeux là donc voilà.
Oui, qui devrait en plus être beaucoup plus simple à mettre en place et à installer. Donc ça, c'est quand même, pour ceux qui connaissent la galère du PSVR 1, et j'en fais partie, voilà. Je pense qu'on attend aussi ça, le monocable là, du PSVR 2, ça devrait être beaucoup plus agréable. Oui, et rapidement, dans les annonces aussi de Sony, il y a, dans les annonces très concrètes d'abord, c'est le partenariat pardon, avec le studio Firewalk Studio pour développer un AAA multijoueur. Donc ça, c'est, je trouve ça assez intéressant parce que Sony s'est attaché un peu à une marque aventure solo, gros budget, mainstream. Ils sont très connus pour ça, c'est pour ça qu'on les reconnaît. Ils sont un peu moins présents dans les jeux multijoueurs, en tout cas en first party. Et là, donc ils ont signé avec Firewalk Studio qui apparemment, contient surtout des anciens de Destiny.
De Bungie, ouais, qui ont fait Destiny. Voilà, c'est On a fait le contractuellement, on a parlé de Destiny dans le rendez-vous. Et non, mais c'est intéressant de ce qu'on parlait d'exclusivité un peu avant au niveau de PlayStation. Donc on a eu, ils avaient discuté avec Jade Raymond il n'y a pas longtemps là, avec son nouveau studio qui veulent pousser. Là pareil, Firewalk, je crois qu'il est créé spécialement pour ça. Et donc, ouais, surtout que Destiny, bon, a priori, le premier, ça avait été un sacré carton et un très bon jeu. On a Johan ici, et bon, bah, c'est pas dans le podcast de Patrick qu'on va l'apprendre. Il a très bien fonctionné, il était très bon. Donc, si toute cette expérience-là pouvait amener à un nouveau jeu multijoueur qui est plus trop dans l'ADN de Sony en ce moment, je trouve ça encourageant.
Je serais curieux de savoir si le jeu va sortir sur PC, si c'est un jeu édité par Sony. J'imagine qu'ils vont avoir un certain contrôle sur la politique de publication, et je me demande s'il sortira sur PC, parce que forcément multijoueur, t'as plutôt envie d'avoir un parc installé de 17 heures le plus grand possible. Alors bien sûr la PlayStation va très bien se vendre, mais je pense que ça peut apporter, enfin c'est le genre de jeu qui bénéficie à être sur plusieurs plateformes. Alors j'imagine pas Sony sortir ça sur autre chose comme console que PlayStation évidemment, mais du coup peut-être une sortie sur PC dans le cadre de leur stratégie un peu Steam là. Je trouverais ça peut-être intéressant à voir si Sony si ça les botte. Mais en tout cas, c'est très cool.
Le jeu est en développement depuis 2 ans déjà, donc c'est pas non plus un futur trop lointain, peut-être, mais en tout cas ce sera pas de la fin de génération. Mais il faudra voir l'évolution de la politique de Sony avec le PC. On sait qu'ils sont encore un peu tatillons, hein. Ils mettent pas tous leurs jeux dessus, et le monde entier attend Bloodborne sur PC et on ne l'a toujours pas. Et plein d'autres jeux aussi, c'est pas le seul.
Et en tout cas, moi du coup, ça m'évoque une dernière chose sur cette news, c'est le fait que j'ai l'impression que Sony et Microsoft sont doucement mais sûrement en train de se faire une petite guerre d'éditeurs, et pas juste pas pour le coup de rachat ou de first party, justement d'aller essayer de chercher les studios pour faire des AAA externes, et les deux ont l'air d'avoir pas mal de jeux dans leurs mains, de jeux développés en externe du coup, mais édités directement par eux comme des futures exclusivités. Pour renforcer encore plus leur line-up, ça va vraiment être la guerre des exclus, j'ai l'impression, sur les années à venir, ouais. Et pas que avec les studios internes.
Bah, c'est ça qui fait presque peur, parce que bon, il y a un géant, parce que Microsoft depuis 2 ans, Xbox depuis 2 ans, t'as l'impression qu'ils ont eu enfin accès au portefeuille de Microsoft. c'est ça.
Non, mais
si on sait que
je pensais
oui, mais même.
Je pensais pas forcément au rachat, mais je pensais par exemple au jeu de Kojima qui a été évoqué. Enfin, alors peut-être que celui ça se fera pas, mais je veux dire, ils ont l'air d'avoir une politique aussi étendue pour aller chercher des éditeurs tiers, comme ça, des développeurs tiers comme ça, et signer des contrats quoi. Et Sony a l'air de vouloir justement avancer ses pions très vite pour aussi en avoir pas mal à venir, des jeux comme Returnal d'ailleurs. Qui ont l'air de plutôt être des réussites, je pense. Enfin, ça a l'air d'être des bons paris pour eux, je pense.
Dernier point de news pour Sony, c'est du coup leur Video Pass qu'ils ont lancé en bêta en Pologne. Donc ça, c'est assez intéressant. On sait que Sony a pas mal de films à distribuer.
Il faut dire que c'est dans le PlayStation Plus.
Ouais, c'est dans le PlayStation Plus. Je crois que c'est juste pour un an. Ils aviseront après s'ils le gardent comme ça ou si c'est un truc à part. Enfin, on ne sait pas encore trop ce que ça donnera à la fin. En tout cas, pour leur test en Pologne, c'est dans le PlayStation Plus. Il y a quelques films. Alors, j'ai pas regardé la liste, mais c'est pas non plus Netflix, quoi. Faut pas s'attendre à un grand catalogue. Il y a Venom.
C'est des films Sony Pictures, en fait.
Ouais, hein. C'est ça. C'est leur film à eux. Donc, Venom, Bloodshot.
Donc, forcément.
Quelques films comme ça. Bon, forcément, ouais. On sera fan ou moins fan. En tout cas, je trouve que c'est un ajout assez intéressant à l'offre globale PlayStation Plus. Ça me passionne pas plus que ça parce que bon, c'est pas sur PlayStation que je regarde des films, mais c'est intéressant.
Tu vois, Thomas disait il y a deux secondes, on a l'impression qu'il y a depuis 2 ans, Microsoft, enfin Xbox a eu accès au trésor de Microsoft. Bah, moi, j'ai l'impression que depuis 1 an ou 2, que Sony se décide enfin, 30 ans plus tard, à mettre en commun un peu leurs forces. C'est-à-dire que Sony, ils sont présents dans la musique, dans la vidéo, dans le jeu, etc. Et ils ont l'air de beaucoup plus travailler en cohérence. Et justement, là, ça me semble beaucoup... Bon, je suis pas le plus grand fan des films de Sony, mais ça me semble intéressant de ramener voilà, les films Sony dans le PlayStation Plus pour renforcer le PlayStation Plus. Et avoir une sorte d'offre sans tu vois, ça permet à Sony de renforcer le PlayStation Plus sans mettre davantage de jeux ou promettre leurs jeux en day one ou ce genre de choses.
Un peu de la même manière que quand Microsoft ils ajoutent, je sais pas, Discord ou Netflix ou ce genre de choses dans le Game Pass. On tend vers des abonnements vraiment multimédia pour le coup. Et pour Sony aussi, on peut imaginer qu'ils vont pouvoir commencer à taper dans leur pardon, dans leur catalogue tout ce qui est Japanimation, animé, manga, et qu'ils ils possèdent à peu près tout, Crunchyroll, ADN, c'est un peu tout est à eux, donc
au point où ça. D'ailleurs leur rachat, un des derniers rachats s'est fait un peu bloquer justement parce qu'ils commencent vraiment à posséder tout, c'est dire à quel point ils possèdent toute l'animation japonaise, mais oui, clairement, ouais.
Ouais, et donc on peut préciser que c'est un test pour l'instant, une bêta en Pologne qui va durer 1 an et qui compte rajouter du nouveau contenu tous les 3 mois. Donc si ça se trouve, en fait, ça va s'arrêter là, on ne sait pas.
Du coup, on va pouvoir passer à la suite des news. On a eu pas mal d'annonces de dates de sortie. Thomas, je sais que tu avais un peu préparé cette liste-là. Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qu'on attend
un petit peu, ouais. Pour cette semaine, alors je vais commencer par le plus important de loin. hier soir, en fait, il y a un tweetos. J'ai oublié son nom, mais je le vois souvent passer. Simone Carles, voilà, qui est quelqu'un du monde de l'industrie du jeu vidéo, qui a repéré sur Steam ce qui ressemblerait à un DLC de Outer Wilds. Ça doit être listé dans les bases de données de Steam, c'est pas quelque chose qui est sur une page. Mm-hmm. Et Annapurna, donc l'éditeur de Outer Wilds, a cité ce tweet avec, vous savez, un petit emoji œil là, qu'on voit souvent, et Mobius Digital, donc le développeur de Outer Wild, a retweeté aussi pareil le petit œil d'Annapurna. Donc
sachant que le DLC s'appellerait Eye of quelque chose, donc oui. Ça rend les réponses
oui. Et donc on aurait un DLC d'Outer Wild, et je m'y attendais pas du tout. Je sais pas si je me base
personne sur... s'y attendait, je pense.
Si je me base sur quelque chose de vrai ou si c'est mon esprit, mais je pensais qu'il y avait rien qui était prévu, qu'ils avaient dit qu'ils en feraient pas, donc là c'est de la rumeur un peu fondée, au moins il y a des choses, mais à voir.
Enfin, pour moi, j'ose espérer qu'Annapurna, s'il n'y avait rien en développement, aurait plutôt démenti plutôt que de faire « Oh là là !»
Oui, c'est pour ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une news concrète. Je ne peux pas dire qu'il y a un DLC officialisé, c'est sûr, mais voilà, ça sent très très bon pour un DLC d'Outer Wilds.
Il y a l'air d'avoir au moins un truc qui se prépare du côté d'Outer Wilds.
De Wilds, oui.
Wilds, j'ai un peu mordu la fin du mot, et ça peut nous changer.
Voilà, je sais pas si...
Du coup, date de sortie, vas-y.
Pardon ?
On y est, c'est les dates de sortie.
Ok, bah allons sur... oui, alors on a beaucoup de... Il y a beaucoup de sorties qui arrivent, et alors je vais faire en deux temps, il y a des choses qui arrivent soit très... tôt, donc d'ici entre demain et le prochain épisode, on a Resident Evil 8 qui arrive la semaine prochaine, mais la démo qui devait se passer uniquement le week-end dernier a été étendue sur toute la semaine, donc si jamais vous le saviez pas, vous pouvez actuellement la tester. Je crois que c'est que sur PS5, ceci dit, je suis...
C'est juste, c'est pas sur PC.
Resident Evil 8 arrive bientôt. Monster Hunter Rise, il y a eu un petit Monster Hunter Direct, je crois que c'était hier soir ou avant-hier soir. Et ils ont quasiment shadow droppé la mise à jour 2.0 du jeu, donc des nouveaux monstres, des nouveaux... Enfin, un peu plus de contenu, parce que ceux qui avaient déjà... éclater le jeu, se tourner un peu les pouces, et ils ont aussi déjà préparé la suite qui arrivera fin mai, donc la 3.0, Petite note sur Monster Hunter Rise, vu que c'est un épisode de bilan financier avec beaucoup de chiffres, il a vendu plus de 6 millions d'unités, ce qui va faire que ça va être le jeu Capcom monoplateforme, donc c'est un peu spécifique, mais qui sera le jeu le plus vendu. Voilà, donc il n'est que sur Switch, s'il faut le rappeler, il n'est que sur Switch pour l'instant, et il commence déjà à battre des records dans la foulée de
Capcom, qui quand même va super bien depuis quelques années, quoi. Qui enchaîne les succès, quoi.
Oui, clairement, ouais.
Et Monster Hunter qui se présente comme vraiment une licence de premier plan, quoi. Le World le dernier était leur jeu le plus vendu. Rise pourrait bien prendre ce chemin si, enfin, on sait qu'il arrive sur PC, mais donc on suivra ça. Mais il est pas impossible qu'ils finissent par détrôner Worlds. Enfin voilà, c'est vraiment devenu, je pense, la licence la plus importante chez Capcom.
Ouais, clairement. Il y a Dragon Quest Builders qui arrive dans le Game Pass, et alors là je crois que je laisse Kassim dessus parce qu'il aime beaucoup ce jeu, si je me trompe pas.
Oui, bah c'est Dragon Quest Builders 2, et c'est leur Minecraft like dans l'univers Dragon Quest, mais qui est très cool. Enfin, qui en fait, je trouve que ça lui fait un mauvais service, c'est un peu négatif de présenter comme ça, alors que il s'inspire de Minecraft, mais qui propose pas mal d'améliorations de gameplay et un vrai scénario et tout ça, qui font qu'il est très cool à jouer. Et il était jamais sorti sur Xbox, en fait. Donc là, il sort sur Xbox, et en même temps, il sort dans le Game Pass. Il sort le 4 mai, voilà, sur les consoles, sur le PC, et sur le cloud.
Voilà. Et donc, dans les sorties qui ont été annoncées cette semaine et qui arrivent un peu plus étalées dans l'année, on a Ghosts and Goblins Resurrection qui arrive donc le 1er juin. Et on a eu la grande nouvelle pour The Great Ace Attorney Chronicles. Donc c'est si je me trompe pas, les deux premiers épisodes.
Enfin les deux. En fait, c'est les deux épisodes qui ne sont sortis que au Japon, quoi.
Ouais. Donc c'est très très préquel. Ultra préquel.
Ultra
préquel. Oui, ça se passe dans une autre époque.
Oui, je crois qu'il y a du Sherlock Holmes ou l'équivalent.
Ça se passe à l'époque victorienne, en fait, voilà. Côté Japon et côté Londres, quoi.
Ok. Et donc ça a été annoncé pour fin juillet, 27 juillet.
Ouais. Je suis très très heureux, et je sais pas quand je vais trouver le temps de les faire, mais je vais foncer, je pense, probablement Day One là-dessus, parce que j'adore l'univers. Je me rappelle de la sortie au Japon, les visuels et tout, ça m'avait vraiment 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 tapé dans l'œil. Donc je vais enfin pouvoir.
Est-ce que c'était, si je me trompe pas, c'est des épisodes Game Boy Advance, non? Ou peut-être que.
Non, pas du tout.
DS, non, je dirais, à l'époque.
Ouais, c'est. Alors les Great Ace Attorney, je crois que c'est même plus tard, mais.
Alors peut-être que je confonds avec Ace Attorney tout court.
Oui, Ace Attorney tout court et de la Game Boy Advance à la base.
Ok, d'accord.
Voilà, la création de l'univers Phoenix Wright, quoi, en gros.
Ouais. Donc c'est 3DS, Android, iOS.
Ok, et à noter que je crois que pour l'instant il n'y a pas eu de traduction française d'annoncer. Il me semble que c'est qu'en anglais, mais bon, qui sait, il reste 3 mois, ça peut évoluer.
Je croise les doigts pour une localisation des textes en français, quoi.
Mm-hmm. Et alors, on a eu côté Japon, on a eu Tales of Arise, donc le nouveau Tales of. Qui a été annoncé pour le 10 septembre. Et pareil, moi personnellement, alors je sais pas vous, mais j'aime beaucoup la série Tales of. J'ai pas joué à tous, mais j'ai joué à pas mal quand même. Et si ce jeu a l'air de promettre beaucoup de changements, ce qui va faire du bien quand même, parce que ça tournait quand même un petit peu en rond, ça. Les gameplays, même les décors, les graphismes, c'était très similaire. Donc Tales of Arise arrive la fin d'année, et moi je suis vraiment vraiment très chaud là-dessus. Et dans les autres jeux, mais alors là c'est très niche, je le mets un peu égoïstement, mais il y a Earth Defense Force 6 qui arrive en fin d'année, et je vous parle pas des remakes qui arrivent un peu courant de l'été, mais bon, moi ça me botte beaucoup.
Je sais pas si tu as mentionné, du coup, il y a Returnal et Pokémon Snap qui sortent demain. Alors, Pokémon Snap qui a déjà certaines reviews, donc qui a plutôt des bonnes notes. Alors, moi, j'ai dit Snap ou Returnal à l'instant là.
Pokémon Snap.
Ouais, Pokémon Snap, c'est ça. Et du coup, je suis assez curieux. J'ai voulu le précommander, mais la Fnac m'a fait un mauvais tour et du coup, je ne l'aurai pas. Donc, j'attendrai un tout petit peu pour me le procurer finalement. Mais moi, je suis un grand fan de l'épisode d'avant, donc j'ai hâte. Et Returnal, malheureusement, les reviews arrivent dans une heure pile poil. Donc, on ne sait pas si c'est bien ou pas, mais ça a l'air quand même pas mal. Les previews sont plutôt positifs. Là pour le coup j'attends mon exemplaire qui doit arriver d'un moment à l'autre par la poste, donc j'ai hâte de me mettre dessus. Rapidement dans les autres annonces, il y a Humble Bundle qui change un peu de modèle. Donc vous saviez, Humble Bundle c'est la plateforme en ligne qui permet d'acheter des jeux soit en bundle soit à l'unité, mais qui a la particularité de pouvoir donner une partie de la somme à une œuvre caritative. Historiquement, on avait un slider sur les bundles qui nous permettait de répartir notre... Parce qu'il y avait souvent des achats, on paye ce qu'on veut, et on avait un petit slider pour décider quel pourcent on reverse aux développeurs, quel pourcent à Humble, et quel pourcent à l'œuvre caritative. Ça a l'air fini, puisque maintenant, on pourra donner qu'au maximum 15% voilà, à l'œuvre caritative. Il y a Sega qui annonce du Judgment, donc le spin-off de Yakuza, pour très bientôt. Enfin, c'est l'annonce qui est 7 mai, hein, c'est ça, c'est pas le jeu, hein, qui sort. Hein. je crois que le jeu vient juste, d'ailleurs, donc Judgment vient juste de sortir en version patchée PlayStation 5.
Et sur Stadia.
Et sur Stadia aussi. Et du coup, ça, c'est un jeu qui me bottait bien à l'époque. Et que j'ai jamais fait, donc j'espère que je finirai par le faire. Maintenant, le problème, c'est que on se dit ça, il y a les Yakuza qui continuent de sortir, donc en fait, on se redit ça pour chaque nouveau Yakuza qui sort, et puis finalement, on n'en fait jamais. je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter, d'autres news à partager.
Rapidement, je vais la balancer quand même. Il y a Rani Tucker qui apparemment, enfin d'après son profil LinkedIn, qui à mon sens de vie est quand même relativement fiable, et du coup la nouvelle game director de Hellblade 2 chez Ninja Theory. C'est elle. Alors avant, qu'est-ce qu'elle avait fait avant? Elle était creative director de DMC Definitive Edition et de Bleeding Edge. Bon, Bleeding Edge. Oui, bon, voilà. Mais voilà, maintenant, elle va être game director de Hellblade 2. Donc, je trouve ça cool qu'on ait plus de femmes à des têtes de création, enfin, vraiment de responsabilités importantes.
Bah, on voit aussi, pour moi, ça me semble montrer que Microsoft, ils font un peu tourner dans leur. Dans tous leurs nouveaux studios, on avait eu pas mal de news comme ça, je crois, pas forcément de news, mais de discussions, d'employés qui montraient que Microsoft, ils font tourner, que ce soit l'expérience ou les personnes ou les technologies, leurs studios sont pas tous chacun dans son coin, tout le monde a l'air de bosser.
Oui, en silo. Ouais.
Ouais.
Donc voilà.
Eh bien, je pense qu'on arrive tout doucement à la fin de cette émission. On va respecter la tradition et on va demander à tout le monde un peu où est-ce qu'on peut le retrouver. Donc, Kassim, si on veut plus de Kassim, où est-ce qu'on va?
Si vous trouvez que j'étais pas assez bavard dans cet épisode, on peut me retrouver sur Twitter, @notkassim, NOTCA2SIM, et sur fandroid.com.
Thomas?
Alors moi, sur Twitter aussi, @TOOTOW, hein, toujours pratique, et sur le Discord aussi.
N'hésitez pas à aller lui demander d'où vient son pseudo.
Toujours.
Et Guillaume, pardon, j'avais l'esprit ailleurs tout à
l'heure. Oui, tu avais oublié que j'étais là.
Je t'ai pas oublié. Alors vas-y, Guillaume, qu'est-ce que tu fais sur Internet?
Voilà, mais donc également sur Twitter, twitter.com/GuiHachez, donc GUIHACHEZ. Je parle pas beaucoup de jeux vidéo, je parle surtout, par exemple, de mon podcast qui s'appelle 70 minutes avec. On parle plutôt de sujets de société et de politique. Et on a reçu dernièrement, j'ai reçu dernièrement la ministre fédérale de l'environnement, Zaka Katabi, puisque je suis belge, j'ai oublié de le dire. Voilà.
Pour ma part, c'est Johan T underscore sur Twitter. Vous pouvez me retrouver aussi sur le Discord. Donc pour trouver le Discord du rendez-vous tech et du rendez-vous jeu, vous allez sur notepatrick.com, hein, où vous retrouvez tous les liens vers toutes les choses qu'il fait. Vous pouvez aussi me retrouver dans un autre podcast de Patrick, Super Laser Punch, où on parle du MCU. Donc là, on vient juste de clôturer les épisodes sur... à chaque fois je dis Captain America and the Winter Soldiers, mais c'est Falcon and the Winter Soldiers, et on ne sait pas encore ce qu'on fera la semaine prochaine. Ça sera une surprise pour moi aussi d'ailleurs. Et voilà, et je pense qu'on va dire au revoir. On va dire au revoir tous ensemble. 1, 2, 3,
au revoir.
Au revoir.
C'est mignon.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president. You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about...
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.